Je vous invite à prendre vos Bibles et à regarder avec moi dans l'Évangile selon Jean, une fois encore. Nous sommes en train de traverser cet Évangile verset par verset. Et aujourd'hui, je voudrais lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 51 et vous parler du Christ divin. Le Christ divin. C'est important de souligner cela parce que les Juifs s'attendaient à la venue du Messie, selon les Écritures dans l'Ancien Testament. Mais le scandale pour eux, c'était que le Christ qui est venu n'était autre que Dieu dans la chair. Et ça, c'est le but de ce que l'Esprit de Dieu a dirigé Jean, l'apôtre Jean, à écrire depuis le début de ce chapitre, dans le chapitre 1, le verset 1. Il déclare « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, si Dieu a une parole à adresser au monde ou bien aux pécheurs, nous savons que ça va être à travers le Seigneur Jésus. C'est lui la parole. Et ça, c'est évident, tel que nous avons déjà vu dans le verset 14 de Jean 1. Et la parole a été faite chair. Donc, si nous lisons le verset 1 en rapport avec le verset 14, si la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, cela veut dire que Dieu a été fait chair. Donc, c'est la révélation du Seigneur Jésus que nous voyons à travers cet évangile selon Jean. Et c'était le message de Jean-Baptiste que nous avons vu la dernière fois. Le message de Jean-Baptiste était simple. Et nous qui sommes des prédicateurs, nous devons tirer un exemple de cela dans notre manière de prêcher. Nous ne devons pas prêcher d'une manière à flatter les hommes ou à exalter l'homme et sa volonté. Ceux qui prêchent de cette manière sont des faux prophètes, des faux prédicateurs. Celui qui est envoyé de Dieu n'a qu'un seul message, et c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu » ou bien « Voilà l'agneau de Dieu ». Simple et clair, l'agneau était le sacrifice que Dieu exigeait dans l'Ancien Testament en attendant la venue de Jésus-Christ dans le monde. Maintenant, le Seigneur Jésus étant venu, le message est « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, tous ces agneaux, ces sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que des types, mais l'accomplissement en Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, quoiqu'il était vraiment doué dans sa connaissance de la loi et des Écritures, ayant grandi dans les traditions de ses pères et connaissant bien la langue hébreu, mais il dit aux Corinthiens, « Pour moi, frère, dans le chapitre 2, le verset 1, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncez le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà le même message de Jean le Baptiste. Christ est Christ crucifié, l'agneau de Dieu. Et si c'est l'agneau de Dieu, cela veut dire que c'est lui que le Père a ordonné depuis l'éternité à être le substitut, à être le rédempteur, à être le sacrifice, le justificateur de ce peuple que Dieu le Père lui a donné depuis l'éternité. Donc, nous voyons maintenant le Seigneur Jésus lui-même en train d'appeler à lui-même ses disciples. Et la dernière fois, nous avons vu dans le verset 37, deux de ses disciples qui entendaient prononcer ces paroles. Quelles paroles? Voici l'agneau de Dieu. Je dis que c'est le message que Dieu utilise uniquement pour attirer les brebis au berger. Christ est le grand berger. Il n'est pas venu pour sauver tous les hommes sans exception. Mais il est venu sauver des pécheurs du monde sans distinction. Cela veut dire quelle que soit la race. Il y en a pour qui il est mort parmi les Juifs, bien sûr, mais il y en a qui sont dans le monde entier, dans chaque tribu, dans chaque race, toute l'âme. Alors, ici, nous voyons la manière qu'il appelle les siens à lui-même, eux-mêmes, avant que Christ ne les rencontre, ne le connaissaient pas. Il fallait que Christ soit révélé en eux, exactement comme aujourd'hui. Nous ne pouvions jamais connaître le Christ de la Bible sans que Christ lui-même daigne se révéler en nous. Et nous voyons la manière qu'il fait cela à travers ces versets que nous sommes en train de lire. C'est écrit, lorsqu'ils entendirent, verset 35, prononcer ces paroles, voici l'agneau de Dieu, ils suivirent Jésus. Voilà la preuve que quelqu'un est appelé par Christ et par sa grâce, c'est qu'il suit Jésus. Jésus signifie sauveur, Dieu sauve. Il ne suit pas d'autres soi-disant Jésus, mais Jésus le Christ, révélé dans les Écritures. C'est pourquoi nous devons toujours nous référer aux Écritures, parce que le Christ divin est celui de la Bible. C'est celui que l'Ancien Testament a annoncé devait venir et que l'Évangile que nous voyons ici, les quatre Évangiles dans le Nouveau Testament déclarent qu'il est venu. Alors, ceux en qui Christ est révélé, ils suivent le Christ de la Bible. Ici, c'est écrit, ils suivirent Jésus. Il faut dire que le nom Jésus était un nom commun à l'époque. Les Espagnols, les Hispaniques ont l'habitude d'appeler leur enfant Jésus. Au Moyen-Orient, il y en a qui donnent ce nom à leur enfant, Jésus. Donc, comme toujours, lorsque les gens prononcent le nom de Jésus, il faut toujours préciser quel Jésus. Et c'est ce que nous voyons ici. Jésus se retourna, ayant déjà appelé cela à travers cette parole, voici l'agneau. Il se retourna et voyant qu'il le suivit, Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Et il leur dit, que cherchez-vous? Quand le Seigneur Jésus pose des questions, ce n'est pas pour se renseigner, mais plutôt de tirer ce qui est dans la pensée de ses disciples et tirer de cette confession. Et voilà ce que nous voyons comme désir. Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeure tout. Ça, c'est le vrai désir du cœur de chaque enfant de Dieu, de chacun pour qui Christ est venu donner sa vie. Et que le Père lui a donné. Leur désir, c'est de savoir où est Christ, où il demeure, et de demeurer auprès de lui. Alors, il leur dit, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Nous savons que beaucoup, peut-être, se posent la question, mais si je ne suis pas un des élus, alors est-ce que Christ pourrait me recevoir? Mais il nous rassure un peu plus loin dans cet évangile selon Jean, chapitre 6, et le verset 37, c'est écrit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Personne ne peut venir à Christ si cela ne lui a été donné du Père. » Nous voyons ça dans le verset 44, Christ dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Alors, si Christ ici répond à ceux, si décrit ici comme disciples, et il leur dit, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Et c'est écrit, « Ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient. » Le fait de suivre le Seigneur est une démonstration déjà que c'est le Seigneur qui était en train de les attirer. Et c'est pourquoi dans Jean 6, le verset 37, c'est précisé encore, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. » Quelqu'un ne peut pas venir à Christ tant que Christ lui-même l'attire selon la volonté du Père. Et alors ceux qui viennent peuvent avoir cette assurance que Christ ne les mettrait jamais dehors, ceux qui viennent à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de les attirer, exactement comme nous avons ici dans Jean 1 et le verset 39. C'est pourquoi c'est écrit, « Ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure, vers l'après-midi, 4 heures l'après-midi. » Les Juifs commençaient à compter à partir de 6 heures le matin, donc la 10e heure devait être vers 16 heures. Alors, André, frère de Simon-Pierre, verset 40, était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est supposé que l'autre était Jean lui-même. Souvent, à travers son épître, il ne se référait pas à son nom, mais comme un des disciples. Donc ici, un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. C'est l'apôtre Jean qui, ici, est en train de donner son propre témoignage. Je dois dire que là où Christ est révélé en vérité, il n'y a pas de dispute. Ceux qui sont véritablement appelés par le Christ divin, le Christ de la Bible, sont d'accord au sujet du Seigneur Jésus. Si vous avez des gens qui disputent, comme il y en a qui doutent qu'il est vraiment Dieu, donc cela veut dire que Christ n'a jamais été révélé en eux jusqu'à là. C'est possible qu'il soit toujours un des élus pour qui Christ est mort, mais que l'Esprit de Dieu ne s'est pas révélé en eux jusqu'à là. Mais là où Christ est révélé, il y a l'accord, il y a l'harmonie. Nous ne sommes pas en train de disputer au sujet de la nature du Christ, s'il est Dieu ou non. Nous ne sommes pas en train de disputer au sujet de sa mort, comme certains disent, non, mais on ne peut pas dire qu'il est mort seulement pour un groupe de pécheurs qu'on appelle élus. Mais que dit la Bible? Christ lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour sauver tous les hommes, mais ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis. Donc, il y a ses brebis que le bon berger est venu racheter et qu'il a racheté. Et ceux-là, il appelle.
et le reste, il laisse. Mais s'il y en a qui ont un problème avec cette manière que la Bible décrit le Christ divin, alors c'est parce qu'ils sont encore dans l'aveuglement. Il y en a qui prêchent le libre arbitre de l'homme. C'est une manière d'exalter l'homme au-dessus de la gloire de Christ. Ceux qui prêchent le libre arbitre de l'homme sont encore dans les ténèbres. On ne peut pas dire qu'ils sont en Christ, mais en même temps en train d'exalter leur soi-disant libre arbitre. L'homme a une volonté, mais c'est loin d'être libre, c'est attaché à un cœur pécheur et une nature pécheresse. Et donc ne pourrait jamais se soumettre à Christ si Dieu lui-même ne fasse une œuvre de grâce en eux. Alors tout cela est important à voir ici, que ces disciples, ayant entendu les paroles de Jean, avaient maintenant suivi Jésus. C'est à travers l'écoute de l'Évangile, mais pas seulement avec des oreilles physiques, l'entendement spirituel que l'Esprit de Dieu donne, comme nous allons voir un peu plus loin dans Jean chapitre 3, ce que Christ a dit à Nicodème, que ce qui est né de la chair est chair. Il y a beaucoup qui professent aujourd'hui être chrétiens, mais qui sont toujours dans la chair, la compréhension même de la Bible est charnelle. Mais c'est écrit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà ce qui est nécessaire pour que un pécheur entend la voix de Christ et le suit. Ce n'est pas d'écouter une voix orale comme on peut entendre quelqu'un dehors en train de nous appeler, on entend leur voix. Non, ici il s'agit d'une voix spirituelle au cœur, la révélation de Christ dans le cœur. Et c'est pourquoi Christ a dit à Nicodème dans Jean 3, 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, que vous naissiez d'en haut. » Et nous avons déjà vu ça dans Jean chapitre 1, la manière que Dieu fait naître de nouveau ses enfants. C'est bien précisé dans le verset 13, « Non du sang ». Ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui fait que les enfants maintenant sont chrétiens, loin de là. Mais c'est aussi écrit « ni de la volonté de la chair ». Cela veut dire on peut réunir un grand nombre de personnes et leur dire « il faut prier pour tel ou tel pour qu'il soit converti ». Mais ce n'est pas selon la volonté de la chair que Dieu convertit des pécheurs. Et c'est écrit, ni de la volonté de l'homme. Voilà, maintenant, qui dénonce cette fausse doctrine du libre arbitre, imaginant que Dieu attend ce que l'homme fasse d'abord, sa décision, et puis maintenant, ensuite, il va le sauver. C'est écrit non, ni, mais de Dieu. Alors le salut est de Dieu du début jusqu'à la fin. Et nous voyons cela dans l'exemple de ses disciples que Christ, maintenant, à travers ce message de « Voici l'agneau de Dieu », il attire à lui-même et ils le suivent. Alors, dans le verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Alors, maintenant, nous avons André, qui était frère de Simon-Pierre. Nous avons l'autre disciple, qui semble être Jean lui-même. Et puis, maintenant, verset 41, Simon-Pierre lui-même. Et c'était son nom, Simon. Et lorsque André lui a dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Oui, Messie est le nom en hébreu et Christ est le nom dans le grec. Mais c'est le même sens. Messie signifie le oint de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois genres de personnes qui étaient oints. Il y avait les prophètes qui étaient mis à part pour le ministère et ils étaient oints à ce ministère. Il y avait les sacrificateurs qui étaient oints de Dieu. Ce n'était pas n'importe quel homme qui devait se lever et puis décider à devenir sacrificateur. Non. C'était Dieu lui-même qui choisissait ceux qui devaient être sacrificateurs. Et ils étaient alors oints de Dieu. Et puis, la troisième catégorie était les rois. Donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, et nous lisons au sujet des prophètes et des sacrificateurs et des rois, ils étaient tous des types de l'office du Seigneur Jésus qui était dans la même personne. D'habitude, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui était prophète n'était pas en même temps sacrificateur et roi. Mais en ce qui concerne le Seigneur Jésus, quand c'est écrit ici que André disait à Simon-Pierre, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, il est en train de dire, nous avons rencontré celui dont l'Ancien Testament annonçait sa venue. Et maintenant, il est venu. Et notez bien encore, verset 42, et il le conduisit vers Jésus, qui dit, Jésus de Nazareth, dit le Christ divin. Encore voilà le scandale. Le nom que les juifs et les pharisiens, les hommes religieux, à l'époque, détestaient, c'était ce nom Jésus. Mais comme les apôtres ont prêché plus tard, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné, par qui Dieu donne le salut, ou que Dieu sauve, si ce n'est le nom de Jésus. Mais nous voyons le même exemple de la grâce de Dieu, en qui le Seigneur Jésus est révélé, ceux-là sont conduits à lui et le suivent uniquement. Et encore, Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie pierre. Le mot pierre signifie un petit caillou. Christ est le rocher. Pierre, qui devait servir Christ en rapport avec Christ, n'était qu'un petit caillou. Une pierre qu'il a plu à Dieu de prendre et de se servir pour sa gloire. Alors, petit à petit, le Seigneur est en train d'appeler à lui-même ses disciples. Et c'est comme ça qu'il œuvre. C'est pas dans les masses, comme les gens aujourd'hui prétendent, les croisades, où on cherche la gloire des hommes, ou un tel prédicateur. Non. La manière que Christ appelait ses disciples et la manière qu'il appelle des pécheurs qui lui appartiennent, c'est un en un. Nous ne devons pas nous décourager du fait que nous nous retrouvons souvent un ou deux à la fois. Laissez les poules aller. Même, nous allons voir ici que lorsque les foules venaient vers le Seigneur Jésus et voulaient s'attacher à lui, ils se séparaient d'eux. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour gagner la popularité parmi les hommes, non. Il est venu dans le seul but de glorifier son Père et de rendre obéissance à son Père à l'égard de ce peuple qu'il est venu sauver afin que Dieu soit juste tout en déclarant juste ceux qui croiraient en lui par sa grâce. Alors le lendemain, verset 43, Jésus voulut se rendre en Galilée. À ce moment-ci, il était toujours au sud du pays. Il y avait 3 départements. Il y avait Judée, et puis la Samarie, et puis Galilée au nord. Samarie était au centre. Alors, il voulait se rendre en Galilée. Et notez bien, il rencontra Philippe. Ce n'est pas Philippe qui est venu le rencontrer, mais il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. C'est ici encore la preuve que ce Christ dont la Bible parle est divin. C'est Dieu dans la chair. Étant Dieu dans la chair, c'est lui qui connaît ce qui lui appartient. Et parmi toutes les masses, les populations qui existaient là, Christ ici se rend vers un qui s'appelait Philippe. Alors, c'est pas là que nous constatons que c'est le salut qui vient de Dieu, du Seigneur Jésus. Et comme nous allons voir à travers cet évangile, parfois il traversait la mer dans une tempête pour appeler à lui un seul démoniaque. Et puis, maintenant, il se met dans le bateau pour retourner. On peut se demander, mais et les autres? Les autres, laissés à eux-mêmes, ne voulaient même pas de lui. Mais Christ est venu chercher et sauver ce qui est perdu, comme la femme samaritaine dans le chapitre 4, qui est devant nous. Parmi tous les samaritains, voilà une femme où, quand on lit dans Jean chapitre 4, le verset 4, c'est écrit, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il fallait. Pourquoi il fallait passer par la Samarie? Parce qu'il y avait là cette femme samaritaine qu'il devait maintenant rencontrer, exactement comme il a rencontré Philippe ici. Donc le salut vient de Dieu. Mais maintenant dans le verset 44, toujours en poursuivant ce thème que le Christ est divin, le Christ divin, qui il est, comment est-ce qu'il est reconnu? Voilà quelques-uns qui l'ont reconnu. Mais la base de reconnaître le Christ divin est dans les Écritures. Nous n'avons pas d'autres preuves que ce que disent les Écritures, comme nous lisons dans le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Et notez bien, Jésus de Nazareth, ce nom qui était pour les Juifs un scandale, c'est le nom ici que Philippe déclare à Nathanaël, ouais, le Christ des Écritures, fils de Joseph. Il était le fils adoptif de Joseph, mais nous savons qu'en tant que fils, il était le fils de Dieu. Alors ça, c'est important de savoir aussi que même dans la Bible, je sais que nous avons 2 parties. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau. Mais la Bible est unie. Cela veut dire, c'est le même message, que ça soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau. Moïse dans la loi, il dit ici, celui qui, de qui Moïse a écrit dans la loi. La loi s'agit de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors il y avait cette connaissance de la loi que le Christ devait venir et Philippe est en train de dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui-là. Et je dois dire que si quelqu'un n'a pas encore rencontré le Christ des Écritures, qui est le même dans l'Ancien Testament comme le Nouveau, donc il ne connaît pas Christ,
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une idée de Jésus selon ce que quelques prédicateurs leur ont dit. Mais quand on compare le Jésus populaire par rapport à la Bible, que ce soit dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, on doit dire que ce n'est pas le même. Et donc ceux qui suivent la parole de ces faux prédicateurs sont encore dans leur péché. Dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15, Moïse a déclaré, et cela quelques milliers d'années avant l'arrivée du Christ au premier siècle, mais dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15, c'est écrit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Vous l'écouterez. Voilà, un prophète, ceux qui étaient loin de Dieu. Et il dit, un prophète comme moi, mais vous l'écouterez. Les pharisiens aimaient dire à notre Seigneur Jésus qu'ils avaient la loi et ils avaient Moïse comme autorité. Et Christ leur a dit clairement, si vous aviez Moïse comme autorité, donc, alors vous m'écouterez. Parce que Moïse parlait de moi, c'est ce que Christ a dit. Et encore, dans le verset 18, il répète, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Voilà encore le sens de Christ, le Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, comme étant le prophète de Dieu, Dieu a dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Le Seigneur Jésus n'a pas parlé si ce n'était de déclarer exactement ce que le Père lui a donné de déclarer. C'est lui qui était l'image visible de Dieu invisible. En voyant Christ, alors, on voyait Dieu. En écoutant Christ, on entendait maintenant la parole de Dieu. Alors, il est connu comme Jésus de Nazareth, quoique né à Bethléem, mais c'était à Nazareth qu'il était élevé et soumis à son père adoptif Joseph, qui était un charpentier et donc, un homme qui n'avait pas de grands moyens, mais c'est comme ça que Dieu a voulu à ce que son fils soit élevé dans le monde, né d'une vierge, mais élevé pratiquement dans la pauvreté, sans avoir beaucoup de biens, mais pour raison, parce que Christ n'est pas venu pour sauver les riches de ce monde, non, les pauvres. Et il s'est humilié lui-même dans sa vie jusqu'au plus bas niveau, afin que les gens sachent qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Alors toute sa vie était un exemple dans son humiliation de ceux qu'il est venu sauver. Mais c'est écrit aussi dans Jean 1, 45, non seulement écrit dans la loi, mais aussi dont les prophètes ont parlé. C'est les deux parties qu'on voit de l'Ancien Testament. Il y a la loi, et puis le reste maintenant est catégorisé sous ce titre, prophète. Il faut dire que chacun que Dieu a utilisé, même comme Moïse, étaient des prophètes. Cela veut dire Dieu leur donnait la parole qu'ils devaient écrire et que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Mais les prophètes disaient la même chose que la loi. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est les Écritures de l'Ancien Testament qui étaient maintenant la base de la prédication et de l'autorité des apôtres qui allaient maintenant dans le monde prêcher l'Évangile.
Aujourd'hui, il y en a qui imaginent que l'Ancien Testament s'agit des lois et des règlements et d'une autre manière d'être sauvé. Il y en a qui raisonnent comme ça. Mais nous voyons par ce qui était écrit ici dans le verset 45 que, non, Moïse et les prophètes n'avaient qu'un seul message. Et c'est Christ et Christ crucifié. Donc, c'est pourquoi si nous prêchons aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de rester dans le Nouveau Testament pour prêcher Christ comme le moyen de salut, mais si nous voulons vraiment enseigner les gens, instruire les gens comment vivre, alors nous pouvons aller dans l'Ancien Testament pour tirer les règles et autres. Non. Ceux qui prêchent de cette manière ignorent que toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, concerne Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est l'unique message de toute la Bible. Alors, le scandale, même pour ceux qui sont appelés, il faut dire que lorsque je suis né dans ce monde, je ne suis pas né avec cette connaissance du Seigneur Jésus. Il fallait maintenant qu'il soit révélé. Et il faut dire que lorsque nous avons commencé à entendre ce message qui donne toute la gloire à Dieu, on avait pas mal de questions, exactement comme Nathanaël dans Jean 1 et le verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors, quand nous voyons le Christ de la Bible présenté de la manière qu'il est présenté, Nazareth n'avait pas une bonne réputation. C'est comme on pouvait dire que quelqu'un était élevé dans la brousse pour devenir maintenant le président de la République. Un petit coin que personne ne connaît, mais voilà, maintenant, il devient président. C'est de cette manière que Nathanaël est en train de poser la question, Nazareth? Comment Nazareth? Alors, c'est pourquoi Philippe, c'est une bonne réponse dans le verset 46. Il n'a pas essayé de raisonner avec Nathanaël pour qu'il comprenne ces choses d'une manière naturelle ou logique. Il dit simplement, viens et vois. Si vous avez quelqu'un qui a beaucoup de questions à poser au sujet de Christ dans la Bible, ma recommandation, ce n'est pas d'essayer de débattre et raisonner avec eux pour les faire comprendre. Dieu n'a jamais révélé Christ à un pécheur à travers la logique ou le débat. Non. Nathanaël dit simplement, viens et vois. Et c'est ce que je dis à certains, quand il s'agit de venir et voir, où est-ce qu'on va voir Christ aujourd'hui? Dans les Écritures. Un des meilleurs dons qu'on peut donner à quelqu'un, c'est une bonne copie de la Bible. C'est pas toutes les versions qu'il faut recommander, mais j'apprécie quand même la traduction de Louis Segond que j'utilise parce que pour la plupart, ça correspond exactement avec ce que nous avons dans l'original, dans l'hébreu ou le grec. Mais de voir Christ dans les Écritures, de dire aux gens de venir voir, de prendre le temps de lire les Écritures et d'écouter la prédication fidèle de l'Évangile, c'est à travers la prédication que Dieu donne l'entendement. Je sais que c'est difficile de nos jours de trouver un endroit, une assemblée où Christ est fidèlement prêché, mais avec la technologie aujourd'hui, telle que nous sommes en train d'utiliser, je suis assis à Shreveport, en Louisiane, et je suis en train de prêcher à plusieurs qui se trouvent dans le monde entier. Et nous sommes en train de voir ensemble. Viens et vois. Ouais. Remarquons ensemble ce qui est écrit. Évaluons ces choses ensemble. Ce n'est pas ma parole qui doit convaincre qui que ce soit. Mais c'est cette parole de Dieu. Christ connaît ce qui lui appartient. Donc, si on dit à quelqu'un, viens et vois, comme le frère est en train d'inviter d'autres de venir s'asseoir avec lui et écouter ensemble avec nous, c'est la même manière qu'il dit, viens et vois. Mais notez bien, ce n'est pas le fait que nous voyons Christ qui est notre salut, mais c'est lorsqu'il nous voit. Vous voyez ça dans le verset 47. C'est pourquoi nous parlons du Christ divin qui connaît toutes choses. Et c'est écrit, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Cela ne veut pas dire qu'il était sans péché, mais cela veut dire un homme sincère. Et cela décrit la manière que nous devons nous approcher de Christ dans la parole, dans la sincérité. Cela veut dire ayant un cœur ouvert maintenant, de recevoir et d'agréer tout ce qui est écrit au sujet de lui. C'est pourquoi Nathanaël venait, quoiqu'il était surpris que le Christ pouvait venir de Nazareth, néanmoins cela n'a pas empêché de venir. Et le fait que Christ ici est en train d'approuver cette manière de venir, ce n'est pas pour exalter Nathanaël, mais là où Christ œuvre, il bénit le fait que les pécheurs viennent à lui et il les laisse savoir que c'est une manifestation de la grâce de Dieu en eux. Alors, verset 48, ouais, Nathanaël est venu selon ce que Philippe lui a dit, mais toujours cherchant à connaître qui est Christ, et pose cette question à Christ dans le verset 48, « D'où me connais-tu ?» Voilà encore, dans le salut, ce n'est pas ce que je connais de Christ qui importe, mais le fait qu'il me connaît. Alors, Nathanaël pose cette question, « D'où me connais-tu ?» Lui dit Nathanaël, et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Bon, sous le figuier, il se peut que Nathanaël était là en train de méditer et prier, même avant de rencontrer Christ, et Christ le voyait déjà. Nous savons que Christ connaît ce qui lui appartient depuis l'éternité, parce que le Père lui a donné ce peuple avant même la fondation du monde. Donc, il se peut que Christ se réfère à un moment où Nathanaël était assis sous le figuier et il a vu en passant et puis l'a tiré à lui-même à travers le message de Philippe. Mais dans l'histoire, il y a un aspect ici que je trouve intéressant parce que ceux qui sont des Juifs disaient que lorsque Hérode était en train de tuer tous les petits-enfants, que la maman de Philippe est allée le cacher sous un figuier jusqu'à ce que le temps passe où ce n'était plus dangereux maintenant pour elle d'avoir un enfant exposé et elle est allée prendre cet enfant et le ramener à la maison. C'est ce que dit la tradition, je ne sais pas. Mais si tel était le cas, c'est comme Moïse, lorsque Pharaon a donné l'ordre de tuer tous les premiers-nés parmi les garçons et la maman de Moïse est allée le déposer maintenant dans le fleuve, dans un panier, et c'est la fille de Pharaon qui a découvert le bébé et qui l'a amené pour l'élever dans le palais, sous le nez de Pharaon, et protégé par Dieu. Je ne sais pas
tel était le cas que lorsque Philippe était encore dans un état où il ne savait pas son avenir, déjà Christ lui-même le connaissait et l'a protégé et l'a gardé jusqu'à ce qu'il soit appelé à lui. Nous savons que ça c'est notre histoire où chacun qui appartient au Seigneur. Je me souviens plusieurs fois à travers mon enfance que j'étais très malade, j'aurais pu mourir comme beaucoup d'enfants même. Une fois, nous étions au bord du fleuve, au Tchad, et il est venu un moment où je me suis presque noyé, et c'était au dernier moment que mon père est venu me sauver de l'eau. J'aurais pu me noyer, je dis cela, mais je dois dire que non, c'est impossible, parce que Dieu devait me garder en vie jusqu'à ce que le moment vienne où il m'appelle à Christ. Mais le point c'est de savoir que c'est Christ qui connaît ce qui lui appartient. Voilà ce qui importe. Je regarde toujours le Seigneur comme un aveugle cherchant à le connaître davantage, mais mon salut est dans le fait que Christ me connaît et me connaît depuis l'éternité. Et c'est pour les pécheurs comme moi qu'il est venu donner sa vie. Alors, le Christ divin, et c'est la remarque que nous voyons tirer maintenant de Nathanaël dans le verset 49, et nous allons reprendre ces derniers versets la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup ici, et je ne voudrais pas passer là-dessus rapidement. Mais Nathanaël, verset 49, ayant cette révélation que Christ le connaissait déjà, répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voilà ce que chaque pécheur déclarera pour qui Christ est venu dans ce monde. Le Fils de Dieu est le roi. On ne peut pas faire une distinction. Il y en a aujourd'hui qui disent, « Ah oui, mais il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Hélas, il n'arrive pas à les sauver. » Donc, cela veut dire qu'il n'est pas fils de Dieu. S'il ne peut pas sauver ceux qu'il est venu sauver, ça c'est quel genre de Christ? Non, le Christ divin est le Fils de Dieu et quoi? Le roi d'Israël. Il règne et il connaît son Israël. Il ne s'agit pas simplement d'un peuple naturel qu'on appelle Israël, mais son peuple Israël, spirituel, son royaume. Il est le roi. Et il accomplit sa volonté. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Cela veut dire, Christ continue à se révéler dans les cœurs de ses enfants. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. Et cela a un rapport avec une révélation que Dieu a donnée à Jacob, à Bethel, dans l'Ancien Testament. Mais Dieu voulant, nous allons regarder ça de nouveau la prochaine fois.